Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue pour 14. Eh oui, on avance bien, Baruch HaShem, on continue à essayer de faire grandir la Torah, et donc on arrive vers la dernière partie de la Shemoneh Esrei, de la Amida, Bracha numéro 14. Après avoir parlé de notre retour à notre Malchut, à notre retour au niveau national, après avoir parlé du retour des Shoftim, de cette volonté de revenir au Sanhédrin, après avoir parlé de faire dégager tous ceux qui pourraient nous faire du mal, la minime ve la malchinime, après avoir demandé une bracha toute particulière pour les tzadikim, on avait expliqué, c'était le dernier cours avant Ben Azmanim, on avait expliqué pourquoi est-ce que les tzadikim, on a besoin de prier pour eux à l'époque de la Géoula, mais justement parce que ils ont tendance à vivre au rythme de la Torah et pas forcément de voir eh bien, que le monde a changé. Et donc, on demande que HaKadosh Baruch Hu aide notre tzadikim à comprendre dans quel monde ils vivent pour bracha Birkat Yerushalayim. Eh oui, ça y est, nous arrivons maintenant à la bracha de Jérusalem, Bonne Yerushalayim. La question qu'on pourrait se poser, la première question, c'est ne suffit-il pas de dire, d'avoir fait la bracha qui nous parle de retour en Israël? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler spécifiquement de Jérusalem? Alors oui, évidemment que dans notre conscience collective, Jérusalem est extrêmement présente. Mais est-ce que c'est une réalité toranique, une réalité halakhique, une réalité au niveau de la sainteté, ou c'est simplement un idéal du peuple? Lorsqu'on dit l'an prochain Jérusalem, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière tout ça? Ou c'est juste, il fallait trouver quelque chose pour nous réunir? Lorsque vous pouvez voir ici dans ma maison, à l'entrée de la maison, un morceau du mur, un amas, 50 cm sur 50 cm, qui n'est pas terminé, qui est complètement mal fait, qui a encore des traces de peinture pas faites. Imeshkacher Yerushalayim, est-ce qu'il y a dans cette signification de Jérusalem, eh bien quelque chose de fondamentalement différent de ce qui est la dimension de la malroute d'Israël de manière générale? Eh bien, tout d'abord, on pourrait se rendre compte que oui, tout à fait. Et j'en veux pour preuve la halakha de la tfila, de manière générale. Et oui, nous dit le Talmud, et c'est repris dans la halakha, que Aya Omed Bechutzal Haaretz, tu es à Paris, tu es à New York, eh bien, celui-là, quand il va faire cette tfila, devra se tourner. Mais vers où? Eh bien, on a tendance toujours à penser que. Alors, il y a plusieurs avis. Il y a l'avis erroné. Il dit, on se tourne vers l'Est. Combien de fois il y a des gens qui m'ont dit, c'est où l'Est? C'est où l'Est? Ça dépend. On ne se tourne pas toujours vers l'Est. Alors oui, effectivement, quand on est à Paris ou quand on est à New York, on se tourne vers l'Est. Mais ça dépend où tu es par rapport à Israël, par rapport à Jérusalem. On va le voir tout de suite. Voilà, toute petite anecdote. Lorsque mon beau-frère habitait encore en Israël, avant d'avoir fait son aliyah en Angleterre, à Manchester, Ira Kodesh, eh bien, un jour, ils habitaient à Tel Tzion. Tel Tzion, c'est à côté de Kohav Yaakov, de Ramallah, c'est-à-dire au nord de Jérusalem. Et donc, on a passé Shabbat là-bas, et à Mincha, le rabbin de la synagogue m'a demandé est-ce que je voulais faire Mincha. Alors, j'ai dit pourquoi pas. Et il m'a dit une phrase comme ça qui est dans le monde des religieux. Il m'a dit, Ta'aleh la Mizrach, va à l'est. Et comme moi, j'ai tendance à être un petit peu taquin, eh bien, je lui ai dit « Ok ». Et donc, lui, alors qu'il pensait me dire « Va à l'endroit du Chazan pour commencer la tefila », ben, il m'a dit « Va à l'Est ». Alors, j'ai été à l'Est, à côté de la fenêtre. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Tu m'as dit d'aller à l'Est ». Il m'a dit « Mais non, le Chazan ». Ah, tu me demandes d'aller au Sud ». Mais oui, parce qu'on est au nord de Jérusalem. Donc, il faut se tourner vers le Sud, vers Jérusalem. Et oui, nous dit la Gemara, Aya Omed Bechutzalaharetz, Mistovev Mechaven Keneged Eretz Israël. C'est-à-dire que lorsque tu habites en France, à Paris, ou à New York, aux États-Unis, tu dois te tourner vers Eretz Israël. Et c'est ça la deuxième erreur. Tout le monde pense que soit on se tourne vers l'Est, soit on se tourne vers Jérusalem. Non. Lorsque tu es en dehors d'Israël, tu ne peux pas encore atteindre la dimension de Jérusalem. Il faut d'abord t'imprégner de la dimension de Eretz Israël, la dimension de la Malchoute. une fois que tu es en Eretz Israël, Aya Omed, la Gemara continue, Aya Omed Ber Eretz Israël, Yechaven Keneged Yerushalayim. Une fois que tu es en Israël, tu dois te tourner vers Jérusalem. Et là encore, ce n'est pas une question d'Est. C'est une question de ça dépend où tu es. Si tu es à Eilat, tu te tournes vers le nord. Si tu es dans le Golan, tu te tournes vers le sud-ouest. Si tu es à Tel Aviv, tu te tournes vers l'est. Mais si tu es à la mer Morte, eh ben, tu te tournes vers le nord-ouest. Mais Kitzur, tu te tournes vers Jérusalem. Il semblerait donc qu'il y ait une différence entre la dimension que représente Eretz Israël et la dimension que représente Yerushalayim. Jérusalem, c'est l'endroit de la Shrina. C'est l'endroit de la présence divine. Lo sharta Shrina, nous dit le Talmud, ella bechelko shel Binyamin. La Shrina, la présence divine, réside dans la parcelle de terrain qui appartient à Binyamin, à Jérusalem. Yerushalayim, c'est la dimension qui me lie à Akadosh Baruch Hu de manière la plus profonde. Eretz Israël, c'est la dimension qui me lie au peuple d'Israël. Jérusalem, c'est mon lien avec Dieu. Et donc, il est évident qu'on doit passer par là dans notre fila. Et c'est pour ça qu'on nous dit « Vilirushalayim irra berachamim tashuv ». Et reviens dans Jérusalem, ta ville, berachamim. Le professeur André Neher avait l'habitude de... Enfin, il avait l'habitude... Il a donné trois explications différentes de cette première phrase de la bracha en fonction des périodes de sa vie. Il raconte que quand il était jeune, eh bien, il pensait que Mazeh Irha, ta ville, à qui on parle, eh bien, on parle à Dieu. Jérusalem, c'est ta ville. Moi, ma ville, c'est d'habiter en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est. Donc, Velerushalayim Irha, Berachamim Tashuv. Toi, Dieu, tu vas rentrer à Jérusalem. Moi, je suis bien en Pologne, mais toi, tu es là-bas, et je ferai mes tefilotes, tout ira bien. Dit André Neher, quand il a compris que les pogroms commençaient à arriver de manière plus en plus pressante en Europe de l'Est, eh bien, il pensait que, ok, alors, Vélirushalayim Irha, de qui on parle du juif qui habite en Europe de l'Est, qui doit fuir l'Europe de l'Est, et on dit, retourne dans ta ville de Jérusalem. Mais pour moi, le juif d'Occident, le juif d'Europe occidentale, de France, d'Amérique, c'est pas pour moi. Moi, je t'enverrai de l'argent. Mais toi, vas-y. Et il dit, lorsque j'ai compris que la persécution et que ça arriverait également en Europe de l'Ouest, alors j'ai compris qu'en fait, ça parle à moi. Ça parle à moi et ça parle à chaque juif. Velirushalayim irra berachamim tashuv. Rentre dans ta Jérusalem. Alors évidemment que l'explication de André Neher est très belle, mais au niveau du pshat, eh bien sûr qu'on parle à Kadosh Baruch Hu. Et on dit Velirushalayim irra berachamim tashuv. D'abord, eh bien ça veut dire que on attend à ce que le retour se fasse par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il semblerait que si ce n'est pas d'abord Dieu qui rentre, bah, y a un problème. Mais ça, on y reviendra dans quelques minutes. Mais là, on demande que Dieu revienne Berachamim. Velirushalayim irra Berachamim tashuv. Rachamim, on avait déjà expliqué ce que veut dire le mot Rachamim, nous donne le temps, et c'est-à-dire que c'est pour faire face, pour être en différence par rapport à Midat Adin. C'est-à-dire que si on demande que Dieu y rentre à Jérusalem Berachamim, c'est qu'il aurait pu rentrer à Jérusalem Midat Adin et on n'en veut pas. Et oui, évidemment, on n'a pas envie que notre relation et notre retour à Jérusalem se fassent de manière difficile, violente. Donc, Vélirushalayim, il ira de toute façon, tu vas rentrer. Mais Berakasha, que ce soit Berachamim. Léat, Léat, on rentre à Jérusalem. Le Béhemet Kachaya, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. On a commencé petit à petit à revenir à Jérusalem, à reconstruire Jérusalem. Et c'est absolument incroyable quand on se rend compte aujourd'hui de la construction de Jérusalem. C'est encore plus incroyable que le reste du pays. Le reste du pays est incroyable, évidemment, bien sûr. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a une photo qui a tourné il n'y a pas si longtemps. De Ben Gurion qui se balade sur la plage, et cette même plage on la voit en 2020 avec une Tel Aviv extraordinaire. C'était pas il y a si longtemps, Ben Gurion qui se balade sur la plage où il n'y avait rien. Mais même si on parle de manière générale, en 1909 Tel Aviv va voir le jour, et on est en 2020, c'est pas si longtemps après, hein, de 111 ans plus tard. Tel Aviv est une ville extraordinaire, donc oui, il y a eu une expansion incroyable. Mais quand on parle de Jérusalem, c'est encore plus fort, Pourquoi? Eh bien, parce que Jérusalem draine en son nom 3000 ans d'histoire. Tel Aviv, ce n'est pas le cas. Et donc, eh bien, lorsqu'on voit la reconstruction de Jérusalem qui s'est fait Bémet Léat, eh bien, on se rend compte à quel point Bémet Akadosh Baruch Hu est rentré à Jérusalem Berachamim. Velerushalayim ircha Berachamim tashuv. Az vetishkon betocha ka'asher dibarta. C'est-à-dire qu'on comprend que si on parle de Jérusalem et de retour à Jérusalem, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit ici d'un retour à la Shrina. C'est de cela qu'on parle. On veut qu'il y ait la présence divine qui règne à Jérusalem. Vetishkon, milashon, mishkan, Shrina, vetishkon betocha ka'asher dibarta. Il réside à l'intérieur de cette ville, comme tu l'avais dit. C'est ce qu'on peut retrouver dans le livre de Tehilim, dans le livre de Tehilim, au chapitre Kufkaf Zain 127, où le Tehilim nous dit « Im Hashem lo yivne bayit shav amlu bonav bo » Si ce n'est pas Dieu qui construit sa maison, alors ça ne sert à rien les mecs qui construisent. Et effectivement, on veut que cette Jérusalem soit le reflet de la résidence divine. En d'autres termes, on demande que Akadosh Baruch Hu accompagne nos mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire accompagne nos mouvements? Eh bien, vous savez, il y a un enseignement du Talmud dans le traité de Ta'anit qui dit quelque chose d'absolument incroyable. Dieu a prêté un serment et il a dit Lo avo l'Yerushalayim shel mala ad sheYisrael yavo l'Yerushalayim shel mata. Yerushalayim, il semblerait qu'il y en a deux. Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, comment on sait qu'il y a deux Jérusalem? On n'a jamais parlé de Hevron shel Mala et Hevron shel Mata. Pourquoi est-ce qu'on parle de deux Jérusalem? Vous savez, en hébreu, il y a une façon de faire le pluriel. Comment on fait le pluriel? On rajoute le suffixe im ou ot, masculin ou féminin. Par exemple, yeled, yeladim. Seulement, il y a une particularité grammaticale qui est que lorsqu'on parle de pas du pluriel, mais du double, c'est-à-dire qu'il y en a deux, ce n'est pas « im » qu'on rajoute, mais c'est « aïm ». On a un œil, « aïn », deux yeux, « einaïm », pas « einim ». « Yad »,« yadaïm », c'est « regel reglaïm »,« ozen oznaïm ». C'est-à-dire que lorsque ça va par deux, on rajoute le suffixe « aïm ». Et donc, on parle ici de « Yerushalayim ». Non pas « Yerushalim », et la « Yerushalayim ». De là, eh bien, on apprend qu'il y a deux Jérusalem. Et le Talmud nous enseignera une d'en haut, une d'en bas. Jacques Dieu dit « Je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut tant que je ne rentrerai pas et qu'Israël ne rentreront pas dans la Jérusalem d'en bas. » Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cette question avait été posé au plus grand Tunisien de l'histoire. Bon, je suis subjectif, hein, j'imagine qu'il y a eu d'autres grands Tunisiens de l'histoire, mais un des plus grands Tunisiens de l'histoire s'appelait le Rav Meir Yehuda Getz. Le Rav Meir Yehuda Getz était le Rosh Yeshivat HaMekubalim Betel, il était le Rav du Kotel, c'était le rabbin au Shtreimel blanc. Alors, je vais même vous le montrer ici, parce qu'il y a, grâce à Dieu aujourd'hui, des livres extraordinaires pour les enfants. On croit qu'ils sont pour les enfants, mais en fait, ils sont pour nous. Et donc, par exemple, on peut trouver ici, dans le livre Sidra, qui s'appelle Gdolea Uma, chaque livre parle d'un autre Rav extraordinaire. Eh bien, vous pouvez voir ici le Rav Meir Yehuda Getz. Et le Rav Getz, il était très, très, très reconnaissable parce qu'il se baladait tout le temps avec un caftan blanc et un Shtreimel blanc. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Eh bien, le Rav Getz, quand on lui a demandé un jour, mais c'est quoi cette Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas? Eh bien, il a répondu de manière très simple. Il a dit, Jérusalem d'en bas, c'est facile, c'est Jérusalem, c'est le tramway, le chouk, le kotel, tout ça, c'est la Jérusalem d'en bas. Ah bon, d'accord, et c'est quoi la Jérusalem d'en haut? Il a dit, la Jérusalem d'en haut, c'est un sac avec des neshamot. Mais des neshamot très particulières. Les neshamot qui sont propices à recevoir la prophétie. Que Dieu a arrêté de donner depuis la destruction du premier Beth Amikdash. Et donc il dit, je promets que je ne rentrerai pas dans ce sac-là, que je ne recommencerai pas à donner ces neshamot-là, tant qu'Israël ne rentrera pas dans la Jérusalem d'en bas. En Bretagne, en 1967, eh bien, nous sommes rentrés dans la Jérusalem d'en bas. Ce qui veut dire que toutes les nouvelles âmes d'Israël qui sont venues après 67, tous les enfants qui sont nés après 67, eh bien, ont reçu ces neshamot extraordinaires qui leur permettent de comprendre des choses absolument incroyables et d'une profondeur excellente que, à l'époque, seuls certains grands personnages comprenaient. On a commémoré, pas plus tard que hier, le Gimel Elul, le 3 Elul, qui marque le jour de la Iloula du Rav Kook. Eh bien, le Rav Kook a écrit des livres incroyables, d'une portée inimaginable, mais qui, à son époque, n'était compris que par 3 personnes et demie. Et son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook, lorsqu'il, beaucoup plus tard, voyait des jeunes de notre âge, lire le livre Orot de son père et le comprendre, eh bien, il pleurait de joie en disant « Qui aurait cru que des jeunes puissent comprendre de tels enseignements ?» C'est tout ça, Jérusalem. Donc, « Vetishkon betocha kasher dibarta, uvneota binyan olam, bekarov beyamenu » il y en a qui rajoutent, « Construis cette ville, binyan olam. » C'est-à-dire qu'elle ne soit plus détruite. C'est-à-dire qu'on veut que la reconstruction de Jérusalem, c'est pour de bon. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une question de mettre du béton armé ou pas du béton armé. Cette Jérusalem ne peut plus être détruite. De la même façon que lorsqu'on va construire le troisième Beth Amikdash, il est là aussi pour durer. Eh bien, cette troisième version de Jérusalem, si je puis dire, en fait, c'est plus que 3. Hein, on a la Jérusalem de David, ensuite on a la Jérusalem du Beit Sheni, du Beit Rishon, qui va grandir encore, de Chizkiyahu Melech Yehuda. On a la Jérusalem du retour des exilés, on a la Jérusalem de Hérode, on a la Jérusalem d'aujourd'hui, et celle-là, eh bien, elle est faite pour durer Binyan Olam. Donc, vous venez au Tab Bekarov Beyamenu Binyan Olam. Et là, on rajoute quelque chose. Vechise David Avdecha Mehera Letocha Tachin. Et prépare la chaise de ton serviteur David. Ah, voilà. Et prépare la chaise de ton serviteur David. Rapidement. C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on est en train de nous parler de David, du Mashiach? Non. Non, car le Mashiach sera développé dans la prochaine bracha de Etzemach David Avdecha. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. Alors, de quoi on parle? On ne parle pas de David Avdecha. On parle de qui c'est David Avdecha. On parle de la chaise sur laquelle va s'asseoir le Mashiach. C'est quoi cette chaise sur laquelle va s'asseoir le Mashiach? Mazet Tachin, Lechonen, Leachin, préparation, mettre en place de Shlav Aleph, en fait, première partie. Eh bien, nos sages dans le Talmud vont tout simplement nous expliquer dans le Zohar qu'il s'agit ici non pas de Mashiach ben David, mais de Mashiach ben Yosef. Il s'agit ici d'une tfila pour la venue de Mashiach ben Yosef. Mais là, il faut expliquer. Qu'est-ce que c'est que Mashiach ben Yosef? Eh oui, on ne peut pas comme ça balancer. C'est quoi Mashiach ben Yosef? Eh bien, le Mashiach ben Yosef, c'est la préparation de Mashiach ben David. Je crois hier, mais ça veut dire quoi? Eh bien, Mashiach ben Yosef, c'est celui qui prépare le terrain. Mashiach ben David a un rôle de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, il lui faut une plateforme. Cette plateforme, elle s'appelle le retour d'Israël sur sa terre. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui dit à la fin de sa vie, lorsqu'il finit d'être Yosef pour se préparer à être Mashiach ben Yosef, il dit « Pakod ifkod Elohim etrem ve'alitem et atzmotai mize itechem » Yosef demande, après avoir passé tellement de temps à penser qu'en Égypte, il allait pouvoir développer la Gedoula, la parole d'Akadosh Baruch Hu, bien il comprend à la fin que non, il faudra rentrer en Eretz Israël. Yosef, lorsqu'il naît, eh bien, c'est à ce moment-là que Yaakov dira à Lavan, « Laisse-moi rentrer en Israël. » De là, nos sages nous expliqueront que Yosef a pour Gematria le mot « Tzion ». En d'autres termes, lorsque Yosef naît, on pourrait dire le sionisme est né. Et donc, Yaakov veut rentrer à la maison. Mashiach ben Yosef, c'est la préparation qui va permettre à ce qu'on appelle aujourd'hui le sionisme laïque. Le sionisme laïque a été le Mashiach ben Yosef qu'on a attendu si longtemps. Évidemment, avant d'être le sionisme laïque, il y a eu plusieurs gilgoulim du Machiav Ben Yosef. Certains des grands sages de la Torah diront de même qu'ils sont une parcelle de ce que deviendra Machiav Ben Yosef, comme par exemple Yitzhak Avinu, ou comme par exemple Arizal, ou le Gaon de Vilna. Ah, Yitzhak Avinu, c'est clair, il n'a jamais quitté Eretz Israël. L'Arizal va nous dire que « Et Azamir Igia », ça y est, c'est le moment, il commence à réveiller les consciences. Le Gaon de Vilna, on verra tous ses élèves en Eretz Israël après avoir dit qu'il sait de lui-même être Nitzotz de Machiav Ben Yosef. Et finalement, eh bien, le Rav Kook nommera tout simplement Binyamin Zev Herzl comme étant Machiav Ben Yosef. Ce processus de préparation est nécessaire. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Le Rambam n'en parle pas dans les lois sur le Mashiach. Eh bien, tout simplement parce que le Rambam nous parle dans ses lois sur le Mashiach de l'idéal. Or, idéalement, si on le mérite, eh bien, il est possible que Mashiach ben David fasse également le boulot de Mashiach ben Yosef. Bon, ben, dans les faits, ça ne s'est pas passé comme ça. Dans les faits, on a eu d'abord Mashiach ben Yosef et ensuite viendra Mashiach ben David. Zeb Seder. Mais attention. Car si le Mashiach ben Yosef, eh bien, c'est la préparation à Mashiach ben David, eh bien, il y a un risque que ce Mashiach ben Yosef disparaisse à un moment donné de manière assez, assez compliquée. Et c'est ce qu'on dit dans certains sidourim, sidourim sfaradim en particulier, eh bien, il y est marqué, à cet endroit de la bracha, « Yesh lechaven veleitpalel al Mashiach ben Yosef shelo yamut ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et oui, le Talmud nous fait état d'un risque. Le Talmud nous dit, à propos du verset, il y a un verset là-bas, dans le livre de Zecharia, qui nous dit, Vaya bayom ahu yigdal ha-misped b'Yerushalayim ke-misped adad Rimon ben Tavrimon be-Bikat Megiddo. Il y aura un jour un grand, grand esped qui aura lieu à Jérusalem. Le Talmud nous dira, de quel esped parle-t-on? Du esped du Mashiach ben Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, dans les Sidourim, Alpi HaKabbalah, eh bien, on nous dit, il faut prier pour que Mashiach ben Yosef ne soit pas tué par Armilus ou Romulus Aracha. Et d'expliquer dans ça, que c'est qui ce Romulus Aracha? C'est Sar Tseva Edom. C'est le représentant de Rome. D'ailleurs, ça nous étonne pas. D'après la théologie et la mythologie romaine, celui qui a fondé Rome, c'est Romulus. Donc, évidemment, on parle ici de ce que représente Rome, la culture occidentale, machin. Il semblerait qu'il y ait un risque que cette culture-là vienne à détruire Mashiach ben Yosef. Ce qu'on appelle aujourd'hui, en philosophie, le post-sionisme. Cette identité que, on a l'impression que les gens n'y croient plus à cet idéal sioniste de création de l'État, d'un sionisme chiloni, je parle. Les gens n'y croient plus aujourd'hui. Il semblerait que Mashiach ben Yosef est en train de mourir. D'après le Talmud, il va mourir, il y aura un esped. D'après le Harizal, eh bien, si on prie pour lui, il ne mourra pas. Pourquoi est-ce que c'est important de prier pour lui pour qu'il ne meure pas? Eh bien, parce qu'il faut comprendre que ce que représente Mashiach ben Yosef a un rôle à jouer également dans l'avènement du Mashiach ben David. Parce que le risque, s'il meurt et qu'on enchaîne sur autre chose, c'est de penser que cette autre chose est détachée de l'appartenance à, j'ai envie de dire, la simple relation à la terre d'Israël, la simple relation au peuple d'Israël en tant qu'identité nationale. On ne peut pas faire abstraction de cela pour construire le deuxième étage. Et donc, il faut prier pour que ça n'arrive pas. D'ailleurs, il y a eu un moment où ça a failli arriver. Dans les faits, lorsque pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Afrika Korps, les troupes du continent africain de l'armée nazie vont commencer à se rapprocher par la Libye, enfin l'Italie, la Libye, machin, pour remonter vers la Palestine. Le but, c'est d'arriver vers la Turquie et de contrôler tout le bassin méditerranéen. Eh bien, le général qui est en marche, qui commande les troupes pour détruire, finalement, Mashiach ben Yosef de l'époque, à savoir le tout début du Yishuv Yehoudi à Mitradesh. Il y a à peu près 400 000 juifs en Israël à ce moment-là qui sont en train de reconstruire le pays, qui ont une peur bleue de cette armée nazie qui arrive et qui est dirigée par Romulus, enfin Rommel, comme de par hasard, il s'appelle comme ça. Et finalement, il va y avoir un grand, grand, grand danger qui va peser sur les hommes juifs d'Israël. Et finalement, Kadosh Baruch Hu va arrêter Rommel à El Alamein, et ça va permettre de réaliser le fait que si on prie pour lui, eh bien, Mashiach ben Yosef ne disparaît pas. Et donc, nous avons besoin de continuer à développer cette identité-là pour pouvoir lui mettre dessus l'identité de Machiav Ben David et à Jérusalem et être pris dans les embouteillages 5 minutes pour comprendre à quel point nous vivons aujourd'hui dans les embouteillages de Jérusalem tous les jours. Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Ah, ça construit dans tous les sens. C'est extraordinaire. Quand on ouvre les yeux et qu'on est témoin de ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que cette bracha se réalise au quotidien, devant nos yeux, même pas éveillé, tout simplement reconnaissant de la grandeur de l'époque que nous vivons. À bientôt, les amis.